bienvenue pour cette soirée. Est-ce que vous entendez bien? Vous n'entendez pas apparemment. Vous n'entendez pas bien? Ça va mieux, voilà. Bienvenue à tous. Nous allons commencer avec quelques minutes de retard. Je suis désolé pour ceux qui étaient en avance. Tout d'abord, un immense merci au Père Jean-Baptiste qui va se présenter dans quelques instants. Et je suis émerveillé parce que le diable fait recette. Là où quand on fait des propositions plus mystiques, là on est au cœur de la mystique, vous me direz, mais vous n'entendez pas. Bon, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est super que vous soyez si nombreux pour entendre le Père Jean-Baptiste. Vous verrez, à la fin, il y a des ouvrages. Donc le Père Jean-Baptiste, auteur d'une thèse en théologie sur tactique du diable et délivrance, on peut même dire que c'est le premier du genre, puisqu'il n'y a jamais eu de sujet de thèse consacré à cela. Même saint Thomas d'Aquin, semble-t-il, n'arrive pas au niveau du Père Jean-Baptiste. C'est ce que je me dis, moi. Mais attendez, c'est pas lui qui me l'a soufflé. Donc, ce sujet très important, si important aujourd'hui, qui s'inscrit particulièrement dans le cadre de la pastorale familiale, parce que toutes nos familles sont touchées de près ou de loin par le mal, à un niveau élevé ou moindre. En tous les cas, on est tous concernés. On ne peut pas dire « moi, je ne mange pas de ce pain-là ». Si, on peut le dire, mais on ne peut pas dire « moi, je suis pur de tout péché ». Donc, on a tous quelque chose à retirer de ce bel enseignement. Et enfin, une dernière petite information, nous allons distribuer des petites images du Père Sestac, des images de la prière du Père Sestac, Auguste et Mère des Jésus. Voilà. Eh bien, certains ne la connaissent pas. Alors, on n'en a pas pour tout le monde, parce qu'il faut aussi pour Pau, on en regarde un petit peu demain. Donc, ceux qui ne la connaissent pas pourront se servir bien volontiers, bien évidemment. Ceux qui la connaissent, s'ils peuvent laisser leur voilà. Donc, maintenant, je passe le micro au Père Jean-Baptiste, puisque nous sommes aussi sur les ondes de Radio La Bourdie, donc à Tardets, en Haute-Soule. Eh bien, on comprend le français.
Bonsoir à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Je suis très heureux d'être pour la première fois de ma vie à Bayonne. Guillaume a eu la gentillesse non seulement de m'inviter, mais aussi de me faire découvrir l'océan tout à l'heure. Nous avons pu prier les vêpres dans cette jolie ville du Père Sestac que vous connaissez bien, à Anglette. Et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et aussi ponctuels. Je ne vous cache pas que j'ai donné cette conférence une petite cinquantaine de fois dans toute la France. Et à chaque fois, on me dit qu'il y a un quart d'heure toulousain, un quart d'heure parisien, un quart d'heure cadet, etc. Mais à Bayonne, c'est une ponctualité impressionnante. Donc je vous admire. Comme le remarque Guillaume, il y a effectivement beaucoup de monde. Un curé dans les Yvelines qui m'invitait récemment, son église était absolument bondée. Et un petit peu surpris, il regarde la nef, m'introduisant en disant « Eh bien, je vois que le diable remplit mon église beaucoup plus que la messe dominicale. »
Pardon, bonsoir. Alors, on voulait juste annoncer pour ceux qui sont venus pour la soirée de prière avec notre communauté que la soirée a été annulée pour que vous puissiez profiter de cette conférence. Donc, on a essayé de parler autour de nous, mais je demande pardon pour ceux qui n'ont pas eu l'info. Donc, notre soirée de prière avec Monseigneur sera portée au 17 avril, ici à la maison diocésaine, à 20h. On vous invite à venir nombreux aussi. En plus, c'est son anniversaire. Donc, on peut fêter son anniversaire le 17 avril, après la soirée. Et la semaine prochaine, on aura normalement la soirée avec l'abbé François Biche, qui va venir nous parler de l'orgueil. Donc, vous êtes tous invités à revenir mardi prochain à 20h et le 17 avril pour la soirée avec Monseigneur sur la colère. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci Patricia.
Et donc, comme Guillaume l'a annoncé à l'instant, et je remercie encore vivement de son invitation, je viens de l'abbaye de la Grâce. Vous voyez tous bien à l'écran? Voilà. L'abbaye de la Grâce, en diocèse de Carcassonne et Narbonne. Donc, nous sommes au bord de la Méditerranée, comme vous êtes au bord de l'Atlantique. Dans un écrin de vignes et d'oliviers, je reconnais quelques visages familiers qui connaissent bien ce village, qui est un des plus beaux villages de France. Donc l'abbaye est nichée en rive gauche, le village est en rive droite, hein, nous sommes en rive gauche, c'est une tendance comme vous le voyez, et avec les Pyrénées comme vous, en fond avec Perpignan en plein sud. Et voilà la façade sud de l'abbaye qui est un monument historique et un outil d'évangélisation assez étonnant dans lequel nous sommes arrivés il y a 14 ans puisque ce sont 30 000 touristes qui passent chaque année et cela se termine parfois en prière de délivrance, en baptême, en préparation au mariage. Et nous essayons de profiter au mieux de la beauté de ce site qui offre 1200 ans d'histoire pour annoncer le Seigneur. Donc vous voyez la façade sud de l'abbaye. Pour la petite histoire, ma cellule est ici. Et notre vie a trois axes. Depuis 1600 ans, nous sommes donc des chanoines réguliers de Saint-Augustin, donc des fils du grand docteur d'Hippone, avec un premier axe, parce que c'est le plus important, fondé sur la vie contemplative, la prière, en particulier par la liturgie, particulièrement solennisée. La vie fraternelle, peut-être que ceux qui connaissent bien les frères reconnaissent certains visages connus. C'est pas moi, c'est pas moi. Et vous avez même ici l'abbé Delander, qui est maintenant dans votre diocèse et que certains connaissent, voilà, qui a été parmi nous quelques années. Et puis des apostolats très nombreux au service d'énormément de personnes différentes, depuis les petits-enfants du catéchisme aux soins palliatifs. Nous avons plusieurs frères qui interviennent dans une unité publique de soins palliatifs sur la demande de la directrice qui est une des spécialistes françaises et une des premières très lancées dans les soins palliatifs, mais c'est aussi des petits-enfants du catéchisme, des migrants. On a un centre d'accueil de demandeurs d'asile et une évangélisation assez merveilleuse de ces personnes. J'ai la joie de préparer actuellement deux Arabes d'origine musulmane au baptême et beaucoup de soins apportés aux familles. Donc c'est dans le cadre de la pastorale familiale que je suis invité ce soir. Je me rappelle, comme de tous les instants, d'un entretien que j'avais eu avec l'exorciste de Paris, qui est un bon ami, le père Jean-Pascal Duloisy, et qui à un moment de l'entretien me dit « Mon père, n'oubliez jamais que le diable a une cible privilégiée. Depuis l'Éden, c'est toujours la même, et c'est le couple humain. »
On n'entend pas, là.
Vous n'entendez pas.
Parlez un peu plus fort.
Est-ce que les autres personnes entendent ? Voilà. Bon. Voilà. Mettez-vous peut-être un autre endroit, madame. Ou voilà. Excusez-moi. Et vous connaissez peut-être tous la réponse que sœur Lucie avait faite au cardinal Carlo Caffara, qui vient de décéder. Sœur Lucie, la dernière voyante de Fatima, qui lui avait dit que le combat ultime entre le Christ et Satan porterait sur le mariage et la famille. Et elle poursuit pour ce cardinal qui a été le premier président de l'Institut des études sur la famille, et nommé par Saint Jean-Paul II à ce poste. N'ayez pas peur, car tous ceux qui défendront le caractère sacré du mariage et de la famille seront combattus de toutes parts, parce que, poursuit la Sainte Voyante, c'est la question décisive. Et donc c'est particulièrement opportun que cette conférence ait lieu dans le cadre de la pastorale familiale. Alors pourquoi j'ai consacré un petit peu de mon temps, là vous entendez encore mieux je crois, et vous-même madame ça va mieux ? Voilà, donc merci d'avoir fait cette remarque. Les autres ne sont pas gênés par le fait que ce soit un peu trop fort ? Si, hein, c'est un peu trop fort derrière. Bon, alors peut-être un tout petit peu moins, on va y arriver. Je consacre une partie de mon temps simplement aux questions de démonologie. Les trois quarts de mon temps de pastoral étant au service de couple et de famille. J'ai à peu près la choix d'accompagner 200 fiancés au mariage chaque année, beaucoup de couples qui vont bien, des couples qui vont pas bien. Et néanmoins, j'ai été obligé de me spécialiser un petit peu en démonologie, tout d'abord pour aider les personnes qui souffraient et qui se présentaient à l'abbaye. Tout a commencé d'ailleurs par une visite guidée d'une classe de seconde de théâtre à l'abbaye de la Grâce, pour ça que je vous parlais un petit peu du monument et de l'apostolat que nous faisions au travers du tourisme. Donc imaginez une seconde d'un lycée public de Narbonne avec une petite jeune fille dans le groupe avec cheveux rouges, ongles noirs, pentacle, croix renversée. Je tombe sur une gothique bien déguisée comme ses petites camarades. Et elle tombe sur un père, c'était pas moi, extrêmement apostolique, qui lui donne une médaille miraculeuse. Tout le temps dans la poche, si vous en souhaitez, j'en ai quelques-unes parmi sur moi. Et cette jeune fille accroche beaucoup, une église gothique comme la nôtre, elle était gothique, ça lui dit, elle vient à la messe une fois, deux fois, trois fois, puis demande à parler à un prêtre. Et là, on me la remet dans les pattes, et là, je tombe sur une petite minette de 16 ans, sataniste, croyante et pratiquante, avec sa statue de Lucifer, scarification, offrande de son sang, Bible satanique, grain d'encens, pouvoir, etc. Et là, il fallait se racler la gorge un tout petit peu, et pour l'aider, j'ai été obligé de pas mal travailler. Ça s'est terminé dans un grand exorcisme, avec l'exorciste du diocèse. Je ne suis pas exorciste, et peut-être que l'exorciste du diocèse est ici et qu'il n'hésite pas à intervenir, mais je fais beaucoup de prières de délivrance avec l'accord de mon évêque et l'accord de mon père abbé. Et c'est pour l'aider initialement, elle, que j'ai commencé à beaucoup travailler. Puis après elle, il y en a eu 2, 3, 10, 50, 100. Maintenant, je ne les compte plus. Des personnes qui souvent se trouvent face à des phénomènes paranormaux vont voir des prêtres qui soit connaissent peu, soit en ont un petit peu peur, les renvoient chez des psys, qui les renvoient chez des prêtres, et puis petit à petit, un petit peu dégoûté, on va voir le médium untel ou le rebouteux truc, et l'emprise diabolique ne cesse de progresser. Et donc c'était vraiment pour offrir une compassion et une aide pastorale efficace pour ces personnes. La deuxième raison, et je pense que votre nombre le montre ici, c'est parce que le combat contre le diable est indiscutablement le combat le primordial, le plus violent, et aussi le plus caché. Parce que le diable adore, nous le dirons tout à l'heure, faire croire qu'il n'existe pas. Et tout ça serait des projections inconscientes, de maladies psychiques, pour expliquer le mal ou autre. Et puis la troisième raison, et votre nombre le prouve, c'est que c'est un petit peu une ruse apostolique. Je vous aurais proposé une conférence sur l'Immaculée Conception ou sur le bienheureux Sestac que vous connaissez et devant lequel je priais l'office de complice tout à l'heure avec Guillaume d'Alençon. Eh bien, vous auriez peut-être été 10 ou 50, mais le diable attire toujours beaucoup. Et c'est l'occasion, pour moi, donc vous êtes tombé dans un guet-apens, pour le dire simplement, de vous parler de la Sainte Vierge, du Christ. Je vous rassure tout de suite, vous saurez tout sur la possession, l'infestation, la vexation, l'obsession, et j'en passe, mais de vous parler aussi du Christ, de la Vierge Marie, de la prière, de l'humilité, de toutes les vertus théologales et cardinales, qui sont les armes les plus efficaces que nous ayons pour répliquer contre le diable. Et à force d'aider 1, 2, 3, 5, 10 personnes, lorsque mon père abbé m'a demandé de faire un master 2 et une thèse de doctorat de théologie, et qu'il fallait bien choisir un sujet, je l'ai fait en démonologie. Je travaillais à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin, des Dominicains de Toulouse, rattaché à l'Institut catholique de Toulouse. Et je revois mon directeur de recherche me dire « Écoutez, concentrez-vous sur ce qu'a dit Saint-Thomas d'Aquin, donc le prince des théologiens, que le code de droit canon actuel indique toujours comme devant normer et éclairer nos études de philosophie et de théologie. » Et j'ai eu l'impression un petit peu qu'il me jetait dans une impasse. Parce que j'avais jamais vu une étude sur la démonologie de Saint-Thomas. Et de fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il me jetait dans une mine d'or. Et qui plus est, une mine d'or inexplorée. Saint-Thomas, prince des théologiens, ayant été travaillé en long, large et en travers depuis 800 ans, sauf sur ce point. Et en est sorti ce petit bébé d'1,4 kg, que vous pourrez vous procurer si ça vous intéresse à la fin. Donc mon directeur m'a dit, écoutez, c'est la première thèse sur le diable en France, c'est un sujet de philosophie, de théologie, de sociologie, d'histoire, mais qui n'avait jamais été traité à ce niveau universitaire. Et donc il m'a dit, lâchez-vous en nombre de pages, donc il y en a 1054. Petite parenthèse, 36 € pour 1054 pages, ça fait 3 € les 100 pages. C'est quand même... Donc en fait, c'est pas cher du tout. Voilà. Avec une bibliographie exhaustive, 3 index. Et donc, je pense que ça peut être un outil de travail. Le seul intérêt de ce livre, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est que c'est plusieurs milliers de citations de papes, de la Sainte Écriture, etc. Hein, donc c'est, en fait, c'est un ensemble de copier-coller. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment les citations de Saint Thomas, du pape François, de la Sainte Écriture, extrêmement nombreux sur la question. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut le mettre dans toutes les mains, mais en tout cas, je crois qu'il peut faire un petit peu de bien, et si c'est le cas, je m'en réjouirai. Il se trouve que la publication de cette thèse, donc aux éditions Artege, a correspondu à peu près avec la publication de livres que je crois absolument providentiels et complètement novateurs. Celui-ci, les prêtres parmi nous le savent peut-être, et je parle encore une fois, je crois crois, j'espère avoir suffisamment d'humilité pour recevoir toutes les objections en complément à ce que je pourrais dire. Donc n'hésitez pas à intervenir, cher père. Donc celui-ci vient d'être publié par la Conférence des évêques de France, Protection, délivrance, guérison. Donc nous commençons déjà à l'abréger PDG, qui offre un recueil de prières de délivrance que tout prêtre peut prononcer pour aider les personnes en souffrance de façon anormale. Et donc n'hésitez pas à en informer leurs prêtres qui parfois ne sont pas tous bien au courant. Et puis pratiquement en même temps, aux États-Unis, et la traduction française vient de paraître aux éditions des Béatitudes, a publié ce document de l'ICRES, donc l'instance internationale du renouveau charismatique, avec l'aval de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et une préface du cardinal Farrell et une postface du cardinal Schönborn. Donc on a deux ouvrages de grande autorité, hein, la Conférence des évêques de France et, sans un équilibre en bonne et due forme, la Congrégation pour la doctrine de la foi, deux approches que je crois très complémentaires. Habituellement, je commence toujours cette conférence par le Pater Noster, puisque c'est évidemment le Notre Père, la prière la plus parfaite qui soit, mais aussi parce que la dernière demande du Pater nous invite à prier le Seigneur d'être délivré du mal. Or, le catéchisme, au numéro 2851, le précise, le mal dont il s'agit dans Notre Père, ce n'est pas le tsunami ou Daesh seulement, c'est d'abord le diable. D'ailleurs, en français, jusqu'au XVIIe siècle, on disait « délivre-nous du malin ». Et c'est le cas dans beaucoup de langues actuellement. Mais comme nous sommes dans le diocèse de Bayonne, et que vous avez la chance d'avoir un nouveau bienheureux qui a composé une prière exorciste, tout à fait belle, et que la plupart d'entre vous connaissent, je vous propose de la réciter tous ensemble. Et donc nous pouvons nous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que, sous ordre, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent par la vie. Qui est comme Dieu, au bon et tendre Père, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous, ainsi soit-il. Bienheureux Sestac, priez pour nous. Saint Michel Archange,
priez pour nous.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En 1972, alors que l'Église contemporaine vit une de ses épreuves les plus lourdes, les historiens parmi vous le savent peut-être, c'est l'année où les cas d'abandon du clergé, de la vie consacrée, se multiplient. C'est l'année où les cas de pédophilie dans le clergé qui ont éclaté, pour la plupart médiatiquement, dans les années 2009-2010 jusqu'à aujourd'hui, remontent justement à cette année-là. Le bienheureux Paul VI, bientôt canonisé semble-t-il, osera dire ceci, c'est dans son audience du 15 novembre 1972. Quels sont aujourd'hui les besoins les plus importants de l'Église ? Ne soyez pas étonnés par notre réponse, que vous pourriez trouver simpliste, voire même superstitieuse ou irréelle, l'un de ses plus grands besoins est de nous défendre contre ce mal que nous appelons le démon. 4 ans plus tard, en 1976, 2 ans avant qu'il ne soit élu pape, Saint Jean-Paul II, encore cardinal Karol Wojtyła, pourra prononcer cette phrase très impressionnante. « Nous sommes aujourd'hui face au plus grand combat que l'humanité n'ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l'ait totalement compris. Nous sommes aujourd'hui confrontés au combat final entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. » Affirmation et prophétie impressionnante de la part de ce Saint-Pape. Dès lors, nous le savons bien, nous avons tous un choix radical à poser, et la liturgie, particulièrement en ce temps de carême, nous invite à le faire. Le pape Benoît XVI nous le rappelait, c'était dans un discours à New York en 2008, les promesses divines nous mettent au défi d'examiner nos consciences pour purifier nos cœurs, de renouveler notre engagement baptismal, ce que nous allons faire tous, du moins pour tous ceux d'entre nous qui sommes baptisés, lors de la vigile pascale, renouveler notre engagement baptismal à rejeter Satan et toutes ses promesses vides. Et puisque j'enchaîne les papes, évidemment le pape actuel est, à ma connaissance, dans toute l'histoire de l'Église, celui qui aura le plus parlé du diable. L'exorciste de Perpignan, le père Denis Broussac, qui est un très bon ami, a recensé plus de 160 pages de textes du pape François sur le sujet. Je pourrais vous trouver un texte à peu près toutes les semaines. Nous pourrions trouver un texte pratiquement toutes les semaines. Je vous recense simplement cette petite affirmation d'une catéchèse de 2013. Nous devons toujours combattre, lutter contre les impulsions du mal et l'action de Satan. Toujours. Pas simplement une fois de temps en temps. Lorsque très 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 rarement monsieur le curé nous parle du diable, mais toujours. Et de fait, nous le savons bien, et les prêtres ici, particulièrement à l'office de Compli, qui très souvent rappellent cette phrase de la première épître de saint Pierre, la partie adverse, nous dit saint Pierre dans sa première épître, la partie adverse, le diable, comme le lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Le texte de la première épître de saint Pierre nous est donné en grec, mais évidemment Pierre pense en hébreu. Or en hébreu, la partie adverse est Shatan, qui a donné Satan. Et Shatan est un nom commun, c'est particulièrement net dans le livre de Job. Donc le Satan, l'adversaire par excellence, est un lion qui rôde cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette conférence, il va nous tourner autour. Et vous tournez autour. Et me tournez autour. Cherchant peut-être à vous décourager, à vous affoler ou à vous distraire. Cherchant à me tourner autour, peut-être en m'enorgueillissant des pupilles dilatées d'admiration que vous m'adresserez, ou découragé de vous voir bâiller au bout d'un quart d'heure. Bref, il ne faut jamais oublier cette présence-là. Mais jamais oublier, je vous le dis tout de suite, la présence de notre ange gardien, la présence du Seigneur, avec lequel, évidemment, nous n'avons rien à craindre. Autre petite phrase qui, avec celle que je viens de citer, servira un petit peu de liminaire et de fil rouge à tous mes propos qui vont suivre. Une phrase dont je ne vous donne pas l'auteur tout de suite. Alors il se trouve que la projection de ce vidéoprojecteur floute un tout petit peu le haut, mais la phrase est très belle, je ne vous dis pas encore l'auteur. Nous sommes portés à commettre, au sujet du diable et de ses envoyés, deux erreurs opposées mais d'une égale gravité. L'une consiste à nier leur existence. Bref, le diable n'existe pas. L'autre, à leur porter un intérêt excessif et malsain. Bref, avoir le diable partout. Ces deux attitudes les plongent dans un égal ravissement et ils accueillent avec le même enthousiasme le matérialiste et le sorcier. Autrement dit, toute conférence sur le diable aura toujours une ligne de crête assez subtile à tenir. Évitez de voir le diable partout et évitez de le voir nulle part. Qui a dit ceci? Un auteur que vous connaissez tous, surtout les plus jeunes, C.S. Lewis, professeur à Cambridge et à Oxford, converti sous l'influence de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, et de Chesterton, dans un livre extraordinairement drôle, avec un humour so british que certains ont peut-être lu. Donc, le titre original, c'est Screwtape Letters, et le titre français le plus connu, Tactique du diable, que je vous invite à lire. Qui parmi vous, d'ailleurs, l'aurait déjà lu, Tactique du diable? Bravo. Et donc c'est un petit recueil extrêmement drôle qui envisage la tentation non pas du point de vue du pécheur, que nous sommes peut-être tous, surtout celui qui vous parle, mais du point de vue du diable, avec un dialogue fictif entre deux démons. C'est très drôle et je vous invite à vous le procurer. Mais est-ce que nous parlons d'une chose réel? Est-ce que le diable existe? Est-ce qu'il est une personne ou une non-personne, comme beaucoup de théologiens l'ont affirmé, à partir des années 60? De fait, déjà il y a quelques années, mais dès les années 60 en particulier, je donnais cette conférence à des prêtres et des, et des théologiens à Lourdes hier, où Mgr René Laurentin est, vous le savez, longtemps intervenu. Donc Mgr Laurentin notait, il y a quelques années, avant sa mort récente, que de larges courants d'opinion issus de la critique rationaliste ont mis en doute l'influence ou même l'existence du démon jusque dans l'Église. Et nous avons tous croisé un moment ou un autre un prêtre ou un catéchiste qui remettait en cause son existence. Le professeur Henri-Irénée Maroux, donc grand universitaire catholique, dans un recueil des études carmélitaines en 1948, donc le problème n'est pas récent. Notez que bien rares sont les chrétiens de notre temps, écrit-il il y a 60 ans, qui croient réellement effectivement au démon, d'autres ne s'y résolvent qu'à la condition d'interpréter cette croyance de façon symbolique, identifiant le démon au mal. Et la petite dernière dont nous avons tous entendu parler, c'est quand même l'affirmation du supérieur général des jésuites, s'il vous plaît, le père Arturo Sosa, en 2017, c'était il y a donc quelques mois, moins d'un an, qui a la question de savoir si le mal était produit par notre psychologie, et surtout par notre paranoïa, ou par une entité supérieure, il conclut sa réponse en disant que nous avons créé, nous-mêmes, notre esprit un peu malade, des figures symboliques, figuras simbolicas, comme le diable, pour exprimer le mal. C'est hallucinant. Et personne ne lui a tapé sur les doigts, et il ne s'est jamais rétracté de cette phrase. J'ai cherché le verbatim en espagnol pour bien le dire, mais c'est hallucinant. Est-ce qu'il y a une faute de traduction ou autre? Il a bien dit cela, ce vénézuélien est supérieur général des jésuites. Ce qui rend la chose assez cocasse, c'est qu'on a justement un pape jésuite qui passe son temps à dire le contraire. Je vous cite simplement une petite phrase du pape François en 2014, qui semble répliquer à son supérieur général, d'une certaine manière, hein, au pape noir, 3 ans plus tôt. À cette génération et à tant d'autres, on a fait croire que le diable est un mythe, une image, une idée du mal. Mais le diable existe, et nous devons lutter contre lui. C'est ce que dit saint Paul, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu le dit, et pourtant nous ne sommes pas vraiment convaincus. Alors vous vous posez peut-être un peu la question, sinon vous ne seriez pas, ou sinon vous n'êtes pas venu simplement pour vous faire peur ce soir. Mais évidemment, l'affirmation de la parole de Dieu et du magistère constant de l'Église est très claire. Nous en dirons quelques mots tout à l'heure. De fait, il est quand même assez rigolo d'avoir vu dans le Figaro, il y a quelques mois, un ancien ministre que vous connaissez tous, c'est Luc Ferry, faire une remarquable petite synthèse de démonologie catholique. C'était à grande échelle, où il fustige ces catholiques, ces théologiens qui ne croient pas au diable et en font une image, une fantasmagorie psychique qui serait produite par notre inconscient pour désigner la méchanceté humaine. Et il cite d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique et le texte de Paul VI que je vous citais tout à l'heure avec une honnêteté intellectuelle qui force l'admiration de la part d'un agnostique. Et de fait, vous connaissez tous, je le rappelais tout à l'heure, la belle phrase que Baudelaire reprend au père de Ravignan et qui sera citée par Huysmans et Bernanos. Baudelaire qui a une petite expérience en la matière, entre parenthèses. Hein, vous savez que les fleurs du mal, qu'on a tous étudié à un moment ou à un autre de nos études, surtout en première, se concluent par des litanies de Satan totalement blasphématrices. Donc il a beaucoup fréquenté les milieux satanistes et spirites à un moment de sa vie. Et il affirme que la plus belle ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Pour terminer, en nu. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Tout d'abord, je vous propose, dans une première partie, de faire une petite enquête sociologique que n'importe quel journaliste ou sociologue pourrait faire pour faire des petits carottages de manifestations particulièrement spectaculaires, ce n'est pas forcément les plus importantes, du satanisme, de l'occultisme dans le monde contemporain et dans notre France de 2018. Et puis, dans une deuxième partie, on essaiera de faire un petit peu de théologie. Rassurez-vous, comme il est tard et que vous avez travaillé toute la journée, on essaiera de le faire de façon ludique. Et puis, dans une troisième partie, qui sera très courte parce que j'aurais été très long, on essaiera de se concentrer sur les portes ouvertes aux démons, qui sont une réalité assez subtile, qui peut concerner tout chrétien, même fervent, à un moment ou à un autre de sa vie spirituelle. Tous les indicateurs sociologiques ont la courbe dans le même sens. Mircea Eliade, le grand historien des religions, le disait bien. Nous vivons aujourd'hui une explosion de l'occultisme. l'expression et de Mircea Eliade. Quelques exemples. 10 000 groupes satanistes en 1946, 135 000 en 1985. 25 000 satanistes français en 2007, c'est pas un chiffre du Père Jean-Baptiste, hein, c'est la Miviludes, organisme interministériel sous la direction du Premier ministre. La Miviludes, dans un rapport de 2007 que vous trouvez sur le site du gouvernement, sur Google, note une augmentation de 300% du nombre de satanistes français en 3 ans. Et j'ai eu un jour en conférence un haut fonctionnaire qui discrètement vient me voir à la fin de la conférence en me disant qu'il travaillait pour les renseignements français sur les dérives sectaires, vu l'impact quant au bien commun en termes de profanation de cimetières ou autre. Je vais en parler dans un instant. Voilà un petit extrait de ce rapport que vous trouvez sur le site du gouvernement. Toutes branches et chapelles confondues, 25 000 personnes sont en contact environ avec le satanisme, donc 80% de moins de 21 ans. Donc ce sont essentiellement des jeunes. La mouvance satanique, un repère, récupère et instrumentalise la fragilité de certains jeunes en souffrance identitaire, en angoisse de l'avenir, en rupture familiale, en échec scolaire, en leur proposant une idéologie de révolte qui semble répondre à leurs attentes. Autre petit exemple. Vous savez que l'Europe occidentale a vécu une furie collective du 15e au 17e siècle qu'on appelle en anglais witchcraft, en français la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières qui, sur un plan historiographique, a beaucoup été étudiée par le professeur Alain Bourreau de l'École pratique des hautes études et qui a fait en moyenne 60 000 victimes, les chiffres oscillent entre 20 et 200 000 victimes. Donc on voyait des sorcières partout et il fallait les pendre comme cette malheureuse, les brûler, les torturer, etc. Il est évident qu'il y en a eu beaucoup, mais il est évident aussi qu'il y a eu énormément de pauvres innocentes, victimes d'une espèce de paranoïa collective et de cet aveuglement collectif, encore plus frappant dans les pays protestants. La chose a été très étudiée en Allemagne par un universitaire récent que dans les pays catholiques. On est passé aujourd'hui exactement à l'excès inverse. Dire que les petites sorcières officiellement affichées comme telles, comme la petite mémé que vous voyez ici, anime des sites internet, des émissions de radio, à la télévision, des revues de grand tirage, comme le Figaro récemment, qui interviewait la sorcière luciférienne de Paris, Ekat, la laissant expliquer comment elle faisait pour fabriquer ses égrégores. Et c'est assez providentiel que dans ce contexte, le pape François ait porté sur les autels un saint martyr très contemporain. Il a un fils d'une vingtaine d'années qui est mort en 1990. Je pense qu'aucun d'entre nous, sauf peut-être les prêtres, ont entendu parler du bienheureux Samuel Bénédicte d'Assois. Qui parmi vous en a entendu parler? C'est bien ce que je pensais. Donc le bienheureux d'Assois, un jeune père de famille d'Afrique du Sud, martyrisé à 44 ans en 1990 pour avoir refusé de se prêter à de la sorcellerie. Petite raison pour laquelle la Miviludes, le gouvernement français, s'intéresse tant aux dérives sectaires, c'est pas par amour de la Sainte Vierge et du Père Sestac et de la prière que nous venons réciter, mais simplement parce qu'il y a un impact social, parfois redoutable, avec des profanations de cimetières ou des suicides. Il est évident qu'il y a parfois des déséquilibrés ou des djihadistes, mais quand on a une croix renversée ou des 666, la signature est quand même claire. Autre petit exemple. En 2005, le chiffre n'a pas tellement varié aujourd'hui, Marilyn Manson, dont vous avez au moins tous entendu parler, peut-être les jeunes même écouté de temps en temps, est crédité de 500 millions d'admirateurs. Or, il est très officiellement grand prêtre de l'église luciférienne américaine. J'ai donné cette conférence à Lyon à plus de 700 personnes en 3 conférences, et les jeunes se rappellent très bien de cet épisode où il devait donner un concert au stade Gerland, et tous les jeunes catholiques de Lyon, enfin beaucoup de jeunes, s'étaient motivés pour répandre des médailles miraculeuses tout autour du stade. Marilyn Manson arrive dans sa grosse limousine, il n'a pas pu poser les pieds par terre, pris d'un malaise irrépressible, et on a dû annuler le concert. Et les jeunes cathos, yes, vive la médaille miraculeuse, voilà. Mais donc cette fripouille, 500 millions de personnes. Évidemment, je suis toujours très heureux d'avoir beaucoup de monde en conférence, mais on n'est pas dans la même cour.
On est comme des petits David contre un énorme Goliath. Autre petit exemple qui n'a rien à voir, le phénomène Harry Potter a fait couler énormément d'encre dans le catholande français, certains disant « Attendez, stop, il y a toujours eu des petites sorcières dans Cendrillon, dans Blanche-Neige, etc. On peut avoir le diable partout, d'ailleurs, c'est vous-même qui venez de le dire. » D'autres disant, il y a eu un grand débat en particulier entre le père Albrecht et Mgr Pascal Hyde, que beaucoup connaissent. D'autres disant « Attention, si les frontières du bien et du mal sont à peu près claires jusqu'au tome 4, c'est beaucoup plus flouté à partir du tome 4. » D'autre part, et c'est le père Joseph-Marie Verlinde, dont je vous ai mis une synthèse à la page 3 de votre support. Je dis bien que c'est un support que je vous distribue, ce n'est pas un résumé de la conférence. Donc vous avez un petit article de l'Invisible sur les questions de l'occultisme, des voyants. Donc c'est une jolie petite synthèse très brève. Le père Joseph-Marie Verlinde, qui, vous le savez, a fréquenté ces petits milieux sans le savoir pendant des années, après son doctorat de chimie nucléaire et son travail au CNRS, lorsqu'il a passé 2 ans dans un ashram de l'Himalaya, et qu'il a, ouvrant tous ses chakras, développé des pouvoirs de médiumnité, de voyance, de guérisseur, de télépathie, et il a remarqué qu'il y avait d'authentiques formules magiques, de grimoires, de livres de magie du XVe siècle, que Madame Rowling a mis sous la bouche de Ron, Hermione, ou Harry, ou d'autres personnages de Harry Potter. Et donc vous doutez bien que ce phénomène éditorial inouï, à une époque où nos jeunes ne lisent plus du tout, puisque ce sont 500 millions d'exemplaires, c'est vertigineux, 500 millions d'exemplaires, puis c'est des briques, Harry Potter, c'est pas des petits fascicules de 20 pages. Et c'est remarquablement bien écrit, il y a un talent littéraire indiscutable. Et les mises en scène de Spielberg sont absolument à couper le souffle. Je pense que nous sommes nombreux à en avoir vu. Et le talent technique est hors du commun. Et 70 langues, 500 millions d'exemplaires, banaliser des formules magiques qui ont l'art d'attirer le diable pour des jeunes sans aucun repère du bien et du mal et sans aucune culture religieuse, ça me semble d'une gravité redoutable. Il semble aussi que Mme Rowling, au micro de la BBC, ait avoué avoir voulu faire une œuvre antichrétienne et que Benoît XVI, c'est pas une encyclique, mais dans un couloir du Vatican, avait confié à un de ses proches conseillers sa très vive inquiétude du succès inouï de cette série. Et donc je pense, là on n'est pas dans la dogmatique, vous êtes libre évidemment d'interpréter ce que je dis très librement, mais je pense que jusqu'au tome 4, pour des petits cathos de vos familles bien cadrés et bien formés au cathé, ça pose pas un gros problème, mais qu'à partir du tome 4, c'est vraiment à proscrire, et que pour 99% de nos jeunes qui n'ont aucun repère de cathé un peu clair, dès le tome 1, c'est quand même très très ambigu. Et donc je vous invite à une réelle prudence. Autre petit exemple, celui de la voyance. La voyance était un crime puni par la loi, un délit, jusqu'en 1994. Il y a probablement des juristes parmi vous. Le délit est supprimé dans le nouveau code pénal de 1994, et à peu près à cette époque se développe la planète Internet. On a aujourd'hui 100 000 voyants. 100 000 voyants exerçant dans notre pays. Le fisc a calculé en 2010 que le chiffre d'affaires des professionnels de la voyance était de 3 milliards d'euros. C'est le triple des consultations médicales. Pour les consultations déclarées, vous doutez bien que dans une profession qui n'a aucune instance de contrôle et où la plupart des consultations sont occultes et non déclarées, on est devant un ensemble échappant totalement au fisc. Donc simplement, les consultations déclarées, c'est le triple des consultations médicales. Un Français sur 4, 25% de la population, allant voir un voyant au moins une fois par an. Les 2/3, je suis désolé mesdames, des clients étant des femmes. Et c'est là l'occasion pour nous de rappeler les paroles extrêmement fortes de la Sainte Écriture, en particulier dans Deutéronome ou le Lévitique, nous invitant à ne jamais fréquenter ce type de personnes. Parce qu'il est évident que sur ces 100 000 voyants, il y a un nombre de gougous qui instrumentalise la crédulité de ces Français sur 4, un Français sur 4, pour leur piquer simplement en moyenne, vous regarderez les pages jaunes de votre annuaire à la lettre V. Et vous serez ahuri du nombre de voyants, parce que je ne pense pas que ce soit quand même la catégorie des pages jaunes que vous consultez le plus souvent, vous serez ahuri du nombre de voyants à Bayonne et dans votre département. En moyenne, les tarifs sont de 15 euros les 10 minutes et de 4 euros la minute supplémentaire. Je serais milliardaire à ce tarif. Hein. Et 4 euros la minute supplémentaire. Il est évident qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui utilisent simplement votre crédulité pour se faire du blé, mais il est évident aussi qu'ils ne seraient pas aussi nombreux. Avec autant d'argent, si tout ça, c'était tout le temps du vent. Il y a indiscutablement des prédictions qui s'avèrent justes ou des visions de choses anciennes qu'il était impossible, avec une simple intuition humaine, de découvrir. Et donc, ils ont nécessairement été renseignés par un esprit, autant vous dire que ce n'est pas un ange gardien. Hein, et donc, je vous donne trois petites citations du Lévitique ou du Deutéronome qui nous invitent à ne jamais, jamais, jamais fréquenter les devins, les songes, les augures, les voyants de quelque race qu'ils soient. Voilà un petit ratio qui peut nous faire peur, quand même. Le nombre de voyants, le nombre de psychiatres, parce qu'on peut imaginer qu'une personne qui pense souvent qu'elle va voir un voyant, elle aurait pu voir un psychiatre, ils sont quand même 10 fois moins nombreux, et le nombre de prêtres de moins de 65 ans actuellement en France. 6 000. 6 000 contre 100 000. Chercher l'erreur. Voilà, donc c'est David contre Goliath. Bon, on sait qui gagne dans ce combat, mais ça fait quand même un petit peu peur, puisqu'il faut vraiment assurer une prévence et vraiment faire de la prévention, parce que beaucoup de petits cathos vont donc aller voir ces voyants. Et donc je vous invite évidemment à ne jamais jouer le jeu. Le pape François, deux fois, depuis 3 ans, vient de fustiger aussi ceux qui regardaient les horoscopes. Vous savez, dans tous les magazines féminins, ces petites pages un peu débiles et rigolotes, voilà, on est un petit peu dans le monde. Patricia Daré. Est-ce que vous connaissez cette chère madame Patricia Daré? Alors, elle aussi, on n'est pas dans la même cour, elle et moi. Elle, mon livre, je ne sais pas combien d'exemplaires il vendra, 1000 pages, évidemment, ça ne va pas être comme Harry Potter. Elle vend ses livres à 100 000 exemplaires. Hein, et j'en analyse un de ses livres assez longuement dans une annexe de mon ouvrage. 100 000 exemplaires, des livres remarquablement bien écrits, très agréables, que vous trouvez dans les gares à peu près partout. Elle se présente comme médium, guérisseur, exorciste, excusez du peu, et laïque. C'est quand même extraordinaire. Enfin, laïque, pas au sens du laïcat chrétien, laïque agnostique, ne croyant pas en Dieu. C'est prodigieux. Petite parenthèse, C.S. Lewis, dans Tactique du Diable, envisage comme chef-d'œuvre du démon le magicien matérialiste. Autrement dit, celui qui utiliserait les forces de l'occulte tout en se présentant comme agnostique ou même athée. C'est prodigieux. Et donc, je ne remets pas en cause les intentions de cette pauvre dame, mais je crains qu'elle ne soit un bel instrument dans les mains du démon. Et puis alors, un autre petit exemple un petit peu effrayant. En 2013, pour la première fois à Toulouse, hein, qui est donc près de mon abbaye, et là où j'ai fait ma thèse de doctorat, à l'hôpital Purpan de Toulouse, donc un des plus grands hôpitaux du sud de la France, un médecin français, ça s'est fait déjà plusieurs fois aux États-Unis, docteur Charbonnier, a fait intervenir un médium au bloc opératoire. Ça, c'est quand même prodigieux. On a chassé les crucifix, les bonnes sœurs et les curés des hôpitaux pour maintenant y faire rentrer des médiums. Donc la prochaine fois que vous passez sur le billard, je vous en prie, n'hésitez pas à demander aux chirurgiens qu'ils ne fassent jamais intervenir un médium pendant l'opération. Le spiritisme, autre petit exemple. Le spiritisme, dans ses différentes pratiques, là vous avez l'exemple du Ouija et du verre baladeur, là l'exemple de Charlie Charlie. Qui parmi vous a entendu parler de Charlie Charlie? Pas grand monde? Ah, il n'y a qu'un doigt qui se lève. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. Charlie Charlie, 2 millions de tweets, ah quand même, 2 millions de tweets en mai 2015. En 15 jours. De quoi s'agit-il? On met 2 petits stylos ou 2 personnes ou 2 fourchettes en forme de croix, on écrit oui, non, et on invoque un petit Charlie mexicain assassiné à l'âge de 15 ans, et les stylos bougent tout seuls après un petit protocole mis en place par le jeu. On est en plein spiritisme. Et aujourd'hui, le père Marc Prigent, qui est un bon ami, estime qu'à peu près 2 jeunes sur 3 en France ont déjà pratiqué du spiritisme à un moment ou à un autre. Et c'est absolument redoutable parce que ça fait des séquelles qui peuvent vous suivre toute une vie. J'accompagnais un pèlerinage de jeunes pères de famille, enfin de jeunes époux, il y avait aussi des mamans, il y a quelques mois, et un jeune papa vient me voir en me disant « Écoutez, mon père, j'ai un truc à vous dire tout à la fin du pélé, vous savez, le truc qu'on n'ose pas trop lâcher. » Puis juste à la fin du pélé, il vient me dire « Écoutez, mon père, j'ai un truc trop bizarre, j'ai mieux osé en parler à un prêtre. À 15 ans, j'ai été traîné dans une séance de spiritisme, j'avais un peu peur, et de fait, ça a marché, et j'ai eu la frousse de ma vie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 40 piges, et j'ai tout le temps le sentiment d'avoir une présence à côté de moi. Ce qui est quand même assez désagréable. Je suis à la tête d'une entreprise de maçonnerie, j'ai vraiment les pieds sur terre. Je vous assure, je ne suis pas frappé de main. Vous pourriez voter ce truc. On fait tout simplement une prière de délivrance devant sa femme, et donc il se sent tout à fait libéré. On se revoit un an plus tard, je lui dis très discrètement, « Et alors ?» Il me dit « Ah, mon père, c'est génial de se sentir tout seul. » La petite dernière que je viens de découvrir, comme banalisation du spiritisme pour nos jeunes, par la marque qui fabrique le Monopoly et qui le diffuse en grande surface, dans le monde entier. Le Ouija pour petite fille, s'il vous plaît, à partir de 8 ans. Puis regardez le petit conditionnement trop mignon pour les petites lunettes. On est en plein spiritisme banalisé pour des petites minettes de 8 ans. Et vous le trouvez dans les grandes surfaces en France. Et sur Amazon, et j'en passe. C'est hallucinant, quand même. Parce que c'est vraiment... c'est une question de santé publique. Et puis, vous connaissez peut-être l'anecdote tragique de cet événement du vendredi 13 novembre 2013, 2015, pardon, au Bataclan, lorsque Daesh fusille les malheureuses victimes du concert. La photo est prise quelques secondes avant la fusillade. Qu'est-ce qu'étaient en train de faire les participants du concert, le signe du diable ? Et de chanter et de danser sur une chanson nulle à mourir en particulier, Kiss the Devil, je ne traduis pas, embrasse le diable, qui aimera le diable, qui roulera une pelle au diable. Enfin, vous avez les paroles là, vous les trouvez sur Internet. Et donc c'est complètement dramatique. Qu'est-ce que les petits cathos qui étaient dans ce truc faisaient ici, quoi, au secours ? Donc je vous en supplie, si vous allez à un concert ou si vous dansez ou chantez, mais lisez les paroles avant de les écouter. Ce serait dramatique de mourir dans cet état, et je vous invite vraiment à prier pour les victimes qui ne devaient pas être dans les meilleurs états spirituels pour paraître devant le Seigneur. Et puis alors, le 8 juin 2016, là ça a été au grand jour. 8 juin 2016, inauguration du tunnel du Saint-Gothard. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc ? Le plus grand tunnel du monde. Plus grand tunnel du monde, 57 km s'il vous plaît, 11 milliards d'euros de chantier. Inauguration devant Angela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi, 3 chefs d'État, des centaines de grandes fortunes de l'Europe entière. L'inauguration, vous trouvez le film sur YouTube, a été l'occasion d'un film total, d'une scénographie totalement ésotérique. Donc non seulement c'était moche, mais extrêmement inquiétant. Avec un bouc, il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie pour se dire qu'un bouc, c'est quand même une image du diable depuis l'Antiquité gréco-latine. Un bouc qui éclipse un agneau porté solennellement et un ange de la mort qui vole au-dessus d'ouvriers simulant leurs accidents et leur mort. Et je crains que cette inauguration illustre un petit verset de l'Apocalypse, Apocalypse 6, 15, 16, je vous l'ai mis normalement sur votre support, où ce verset du dernier livre de la Bible nous précise qu'à la fin des temps, toutes les élites qui refuseraient le triomphe de l'agneau, donc du Christ, se cacheraient dans des montagnes, comme si le tunnel du Saint-Gothard était prévu déjà comme un lieu de refuge à la fin des temps. Et ça fait quand même un petit peu peur. C'est bon ? Voilà. Alors, maintenant, on va faire des choses un petit peu plus sérieuses. On va faire un petit peu... Bon, ces chaises me saoulent, donc...
Je suis en train de faire des nœuds autour de la chaise. On va retirer les 3 chaises, ce serait un peu plus simple.
fais une pause. Est-ce que vous auriez aussi un verre d'eau, s'il vous plaît? Parce que je commence à être un vieillard, kakushi mais crachotant, et j'ai besoin de boire. Et donc nous allons faire un petit quiz. Un petit quiz, donc pour deux raisons, je ne vous les dis pas tout de suite. Enfin si, la première, je vous la dis tout de suite, c'est que ça va vous détendre. Et je vous dirai la deuxième tout à l'heure, si je l'oublie, vous m'y faites penser. Donc parlons des anges et des démons, pas seulement du côté obscur de la force, comme dirait l'autre, mais aussi des bons anges qui nous protègent. Alors, à votre avis, les anges et les démons, c'est quoi? Est-ce que ce sont des personnifications du bien et du mal? Est-ce que ce sont des énergies fluides, électromagnétiques ou autres? Ou, et il s'agirait-il, d'être personnel et intelligent? N'ayez pas peur. Bravo. Ah, vous n'osez pas dire, mais évidemment, des êtres personnels et intelligents. Je vous donne un exemple. Tous les exemples que je vais vous donner sont des exemples vrais. Je floute évidemment totalement le prénom.